Vous écoutez France Culture, il est 6h46. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux aujourd'hui, le conflit syrien.
Oui, c'est ça, avec de nouveaux des soupçons d'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien. Dernier développement depuis une semaine dans la province d'Idlib, au nord-ouest du pays. Ce dernier réduit et rebelle djihadiste censé être épargné par un accord entre la Turquie et la Russie, mais cible d'une nouvelle offensive de Damas depuis 2 mois. Bonjour Basma Konmani.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone. Vous êtes la directrice de l'Arab Initiative Reform et membre de l'opposition démocratique syrienne. Alors dans quelques jours, le 28, cela fera 2 mois de bombardement dans cette province d'Idlib par le régime syrien. L'objectif affiché, c'est de reprendre un certain nombre de localités intermédiaires aux groupes armés. Déjà 600 frappes aériennes, rien que pour la journée d'hier selon l'OSDH. Si Idlib était une zone de désescalade, ce n'est plus rien de tout cela là en ce moment.
C'est malheureusement une offensive qui est redoutée et attendue depuis plus d'un an maintenant. Mais cet accord de désescalade entre la Russie, la Turquie et l'Iran, mais la Russie et la Turquie étant les deux pays concernés surtout, cet accord qui devait durer 6 mois, les 6 mois sont écoulés, n'a donné aucun résultat du point de vue de la Russie en particulier. Autrement dit, cet accord devait conduire la Turquie, qui s'est engagée à cela, à combattre les djihadistes qui sont dans cette région. Or, dans cette région, nous avons probablement plus de 3 millions d'habitants aujourd'hui amassés parce qu'ils ont été forcés par le régime syrien à quitter les différentes régions de Syrie, de Damas, du sud, du centre, de toutes les régions de Syrie. Et aujourd'hui, on retrouve une concentration de Syriens de toutes les régions dans Idlib.
Oui.
C'est une région très hautement peuplée, très fortement peuplée, et parmi eux se trouvent des djihadistes. Voilà l'enjeu militaire qui est d'une importance, évidemment, qui est très complexe, mais évidemment, la solution n'est pas de tirer au milieu de la population civile comme il se produit en ce moment.
Oui, c'est ça. On va revenir sur les responsabilités de rupture, si on peut dire, de l'accord. Donc, il y aurait 50 000 combattants de Hayat Tahrir al-Sham, notamment ce groupe qui était censé être contrôlé d'une certaine manière par la Turquie. Juste un mot des réfugiés. L'ONU parle de 200 000 environ, une grande partie qui sont massés à la frontière avec la Turquie. Ce serait 700 000 selon les officiels d'Idlib. Est-ce que c'est confirmé ces chiffres ?
Absolument, ces chiffres sont très élevés et tout à fait prévus d'ailleurs, parce que il y a aujourd'hui probablement plus de 350 000 personnes qui ont été déplacées. Vous savez, les gens se déplacent le moins possible, c'est-à-dire restent le plus près possible du lieu d'habitation, mais il y a bien ces déplacements massifs, tout le monde s'y attendait. Et je pense que l'enjeu civil, l'enjeu humanitaire est d'une échelle tellement élevée que honnêtement, je ne vois pas comment cette région comment le conflit peut être réglé, la situation peut être réglée militairement à Idlib. Voilà tout l'enjeu aujourd'hui, c'est que on ne parvient pas à un accord politique qui permette réellement de traiter la question. Il faut à la fois un plan militaire, très complexe, mais il existe. Il faut savoir que beaucoup de Syriens ont travaillé à ce plan. Il faut savoir que la population elle-même veut se débarrasser des djihadistes. Elle est déjà sortie plusieurs fois depuis 2 ans dans les rues de manière pacifique pour dire sortez de nos villages, de nos villes. Et les djihadistes étaient obligés de sortir dans ces cas-là. Malheureusement, personne ne voit que c'est là la piste qui permettrait d'éviter à la population civile d'être bombardée, car la population civile est loin de protéger ces djihadistes, et ces djihadistes s'en iraient sortiraient des villes et iraient dans des zones moins peuplées si ce plan était mis en œuvre. Pour l'instant, que la Russie veut faire, elle veut nettoyer des zones qui visent surtout ces bases militaires qui sont plus vers la côte syrienne, c'est-à-dire la côte ouest de la Syrie.
À l'attaquer la base de Khmeimim, notamment, base aérienne.
Voilà, nous avons la base de Khmeimim, une forte concentration là de présence russe et qui se trouve à la portée des armes, des missiles des djihadistes. Mmh. L'objectif premier des Russes est celui-là. Les objectifs du régime aussi, c'est de reprendre des points stratégiques très importants qui ouvriraient la voie ensuite à la conquête de l'ensemble de Idlib. Oui. Mais j'ose pas parler du mot conquête car ce sera évidemment un massacre massif.
Et quitte au passage effectivement à se froisser diplomatiquement, voire plus avec la Turquie, puisqu'il y a également des postes d'observation, 12 qui avaient été établis par la Turquie, 200 soldats. L'un d'entre eux au moins a été bombardé récemment. Qu'est-ce qui s'est passé encore une fois? Qui a eu la responsabilité de la rupture de l'accord? On comprend bien l'enjeu sécuritaire pour la Russie, mais et également en janvier, le groupe HTS, donc dépendant de la Turquie, avait quand même repris le contrôle de toute la zone où je me trompe.
La tension aujourd'hui est évidente. La Russie reproche à la Turquie de ne pas avoir rempli son engagement de démanteler ce qu'on appelle HTS, c'est-à-dire les djihadistes de Nusra, anciennement, ou Al-Qaïda si on veut. Cet engagement turc était pris effectivement il y a plus de 6 mois. Mais je crois que, si vous voulez, l'enjeu réel aujourd'hui, bien sûr, les djihadistes sont installés là, mais très honnêtement, je ne vois pas d'opération qui vise à liquider les djihadistes. On voit plutôt des opérations qui visent à cantonner les djihadistes dans cette zone et protéger, bien sûr, la base militaire, permettre au régime de reconquérir du territoire, et personne ne se préoccupe de liquider définitivement les djihadistes et de les combattre dans cette zone. Oui. Et c'est ce que la population voudrait voir d'ailleurs. Elle voudrait voir les djihadistes combattus et qu'ils partent de leur région. Donc, si vous voulez, cette tension aujourd'hui, elle est due au fait que la Turquie s'était engagée à combattre les djihadistes, mais aujourd'hui, la Russie, voilà le moment où elle ne progresse plus en Syrie, elle n'obtient plus de victoires militaires, elle n'arrive pas à faire valoir ses victoires militaires dans les autres régions pour le transformer en victoire politique, et donc elle continue à appliquer cette même logique qui est la reconquête à un prix humanitaire prohibitif du territoire au profit du régime de Bachar el-Assad.
Et le fait que le chef des HTS, Abu Mohammad al-Jolani, ait appelé vendredi dernier à ouvrir un nouveau front vers Alep au nord, est-ce qu'il faut y voir un message peut-être de la Turquie, une volonté de, disons, étendre la zone d'action du régime et l'affaiblir?
Non, je ne pense pas qu'on puisse dire que la Turquie manipule les djihadistes pour qu'ils mènent des combats contre le régime. Ce n'est pas la priorité de la Turquie. Vous savez, la HTS, Al-Jolani, les djihadistes ont des moyens propres. C'est là tout le problème. C'est comme l'État islamique. Ils ont eux-mêmes des moyens maintenant, puisqu'ils se servent des ressources du pays. Et ils n'ont pas besoin d'avoir un pays qui les finance. Donc, ils ont leur propre stratégie. Il y a encore des groupes qui combattent le régime, donc ils sont en première ligne pour combattre le régime par des attaques suicidaires, c'est des combattants féroces, évidemment, ces djihadistes. Donc le régime est mis en difficulté dans ces régions-là. Il est de toute évidence, la Russie est inquiète parce que le régime n'arrive pas à combattre ces combattants-là. Et donc la situation militaire les combats sont très très féroces et c'est ce qui explique sans doute pourquoi le régime a eu recours à des armes chimiques, à du chlore, et le constat est fait aujourd'hui qu'il y a bien eu utilisation d'armes chimiques. Oui. Les victimes sont, on les voit et les témoins sont là.
Bon, et tout dernière chose, autre solution que strictement militaire, il y a eu une percée, comme ça a été appelé, dans les négociations pour un comité constitutionnel le 12 avril. Où est-ce qu'on en est, une date qui est donnée pour une prochaine rencontre?
Écoutez, voilà plus de 2 ans presque que ce comité constitutionnel doit se former de 150 membres. Nous ne sommes plus très loin d'un accord sur la composition de ce comité constitutionnel et sur son mode de fonctionnement, les mécanismes de prise de décision, etc. Donc, l'envoyé spécial des Nations Unies a progressé dans cette direction-là. Il n'est pas exclu que dans quelques semaines, on puisse voir en effet une première réunion de ce comité constitutionnel. Quant à ce qu'il pourra produire, à faire, bien sûr.
Bon, ce sera à suivre, épisode diplomatique et politique. Merci beaucoup pour toutes vos explications et analyses aujourd'hui. Basma Khodmani, directrice de l'Arab Initiative Reform et membre de l'opposition démocratique syrienne.